philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe le 24 octobre 1996 à Saint-Jodard.
Cours d'éthique. Le péché, s'il n'est pas un acte humain, il n'est pas moral. Donc, il n'est pas volontaire. Or, tout péché est volontaire. Ouais, j'ai presque envie de l'afficher pour que on discerne l'erreur du raisonnement. Oui, Atif, ceci est intéressant. Quand vous lisez des articles de journaux, vous avez des raisonnements comme ça. Et vous devez pouvoir dépister tout de suite. Ça va plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous ne pouvez quand même pas accepter. Tout. Il n'est pas volontaire. Or, tout péché est volontaire. Donc, le péché ne serait pas un acte humain. Un acte humain. Il manque quelque chose pour être un acte humain. S'il n'est pas un acte humain, il n'est pas moral. Le péché est un manque, une privation. Alors, une privation à l'égard d'un acte humain. C'est un acte humain. C'est justement l'amour et la finalité. Il devrait être autrement. Il y a un manque. Dans tout péché, il y a un manque. Alors, il n'est pas moral, il est antimoral. Mais il est le mal dans l'aspect moral. L'humain est volontaire. C'est un pinceau mobile. Oui. Il ne s'agit pas de moraliser l'art. Moraliser l'art, c'est tuer l'art. C'est ce qu'il y a de si difficile dans l'activité d'éducation, qui demande d'être finalisée et qui demande de rester un art. Et très souvent, du fait même qu'il est finalisé, on ne s'occupe plus beaucoup de l'art. Donc le point de vue intellectuel va disparaître et on va tomber dans quelque chose de beaucoup trop moral. C'est ce qui est très difficile dans l'art chrétien, de ne pas moraliser et de faire que ça reste artistique. Vous voyez, le très gros danger de ce qu'on appelle l'art chrétien, c'est que l'aspect moral risque de tout envelopper. Et à la place de faire une œuvre artistique, on exprime dans l'œuvre son amour pour le Christ. Et on l'exprime très maladroitement. Vous voyez ? Alors on dit art chrétien. Non, c'est pas un art chrétien, puisque c'est plus un art. Oui, c'est très difficile de traduire la proie hérésis. Très. Il y a un lien avec la prudence. Ce qu'on appelle la prudence. C'est cette qualité de lucidité qui est très stoïcienne et qui est un regard de savoir ce qu'on fait. métaphysique, ce n'est plus l'éthique. Quand on dit que c'est l'amour d'amitié, c'est un amour en exercice. Et donc le bien n'est pas extérieur. Dans l'amour d'amitié, le bien de l'ami est vu à travers le bien de l'ami. Donc c'est intérieur. Et c'est là la différence entre le bien vu d'une façon métaphysique et le bien vu d'une façon morale. Le bien vu d'une façon morale, c'est ce bien qui suscite en moi un amour. C'est à travers cet amour que le bien devient fondement de la morale. Peut-on dire qu'alors Épictète confond le fondement de l'éthique et ce qui proprement détermine l'activité morale? Oui, ce qui détermine proprement l'activité morale est immanent. Extérieur. De sorte que j'aime mieux dire que c'est l'amour d'amitié que de dire la proie hérésis d'une part et d'autre part le point de vue de l'amour ou le point de vue du bien. C'est bien quelque chose d'immanent qui est fondement de la morale. Autrement, ce serait la loi. Et la loi peut être considérée comme fondement de la morale. Mais voyez que ce n'est pas le fondement ultime. Parce que le fondement ultime, c'est ce qui est premier. Or, la loi est faite par les hommes, la loi positive. Autrement, vous retombez dans la loi naturelle. Et la loi naturelle que les stoïciens mettent très en lumière, ce sont les stoïciens qui mettent en lumière la loi naturelle. La loi naturelle provient d'un jugement de sagesse. Donc, ce n'est pas premier. C'est élaboré à partir d'un jugement de sagesse. C'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas dire que la loi est fondement de la morale. La loi provient d'hommes vers Dieu. Autant que possible. Autrement, ce n'est plus des lois. Quand Giscard fait des lois, en regardant ce qui se vit, c'est plus des lois. Vous voyez, quand on fait un référendum, alors combien d'hommes aujourd'hui vivent dans le péché, ils sont plus nombreux que les autres, donc c'est le péché qui devient la norme. C'est comme ça que ça se passe pour l'avortement. Il faut voir clairement, le péché ne peut pas être norme de la morale. Le péché devient norme de la morale quand on ne sait plus ce que c'est que la morale. Et qu'on ne voit plus le caractère humain de la morale. Et on considère la morale comme quelque chose dont on a besoin, comme un tuteur. amitié naît à partir d'un éveil de l'amour spirituel qui n'est pas au point de départ réciproque, qui est une sorte d'attirance. Le bien moral qui m'attire, et je dis bien qui m'attire, il peut en même temps me séduire, mais pas nécessairement. Si ça convient, la séduction et l'attraction au plan moral, la séduction est premièrement du côté intellectuel. C'est l'intelligence qui séduit. Et la séduction est premièrement du côté artistique. On est séduit par le beau. On est attiré par le bien. Essayez de vérifier cette affirmation pour que pour vous ce soit patent. C'est pas le bien qui me séduit. Facilement. bien, qui pour nous est quelque chose de très beau, puisque c'est une personne. Et donc il y a quelque chose d'infini dans le bien de toute personne qui nous attire. L'amitié commence par un certain absolu, qui est caché, c'est sûr, qui n'est pas encore entièrement dévoilé.
Alors, le temps.
ça une force plus grande. Mais le danger, c'est de confondre à ce moment-là le bien et la personne qui est attirée par moi. Parce que l'amour d'amitié se nourrit du bien de l'ami sur moi, sa force d'attraction, et non pas ce fait qu'il m'aime. Je dis ça parce que la plupart du temps, les amitiés périssent à cause de ça. L'ami n'est plus attiré de la même manière. Mais ça se voit beaucoup quand vous regardez comment une amitié du point de départ tend à disparaître. Autrement dit, une amitié qui a conduit au mariage, qui petit à petit, dans la vie commune, diminue et tend à disparaître. Regardez la mort d'un amour d'amitié. Et ce serait très important, je crois, à étudier de très près ça, au plan philosophique. Pour que l'amitié grandisse, il faut aimer l'ami pour ce qu'il est. Donc, pour l'attraction qui vient de lui. Et non pas de l'amour qu'il a pour moi. C'est très bien de l'aimer pour l'amour qu'il a pour moi. Mais il faut que tout de suite, ou très rapidement, on dépasse l'amour qu'il a pour moi et que ce soit lui que j'aime et que ce soit lui qui m'attire. Et vous comprenez pourquoi. Quand on vit une vie commune, il y a des jours euphoriques et des jours moins euphoriques. Des jours, on ne sait pas pourquoi, on est fatigué. Subit le temps. C'est évident que c'est plus agréable quand il fait beau. On est plus joyeux intérieurement. Tandis que quand il pleut, petite pluie fine avec le brouillard, un mauvais café. Alors, on n'est pas très très agréable. Alors, si on aime l'autre parce qu'il m'aime, on s'aperçoit que tel jour, il n'exprime moins son amour parce qu'il est fatigué. Alors, parce qu'il exprime moins son amour, on l'aime moins. Puis ça dure, on l'aime moins. Et parce qu'on l'aime moins, forcément, l'autre sent aussi qu'on l'aime. À la place de monter ensemble, ça descend ensemble. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'accrochage. L'attraction première a complètement disparu. Alors ceci montre bien l'objectivité de cet amour spirituel qui naît dans l'amour d'amitié. Et c'est pour ça que c'est cet amour spirituel à l'intérieur de l'amour d'amitié que je regarde comme ce qui fonde toute la morale. Vous voyez, ce n'est pas l'amour de mon ami, c'est la bonté de mon ami qui m'attire. Et ça, c'est capital. Vous verrez plus tard quand viendra vous conseiller, vous demander conseil par rapport à un amour d'amitié qui tend à disparaître, qui n'a plus son élan, qui n'a plus la force du début. Essayez de voir à quel moment, de fait, ce n'est plus la bonté de la vie qui a suscité en nous un amour, mais c'est son diminuer.